19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir et en plus on est vendredi. Et vendredi, je le sais, c'est pour vous évader, c'est le week-end, vendredi. Et on va tenter de vous proposer au menu ce soir jusqu'à 20h dans les informés sur Beurre FM. Eh bien vous le savez, au programme hyper chargé. À la fois on va accueillir Noël Mamère et son livre, son ouvrage, Le Cas Zemmour. Justement, où en est-on? Comment en est-on arrivé là? Ensuite, à 19h10, Madame la ministre Nadia El, la ministre de la Ville, sera avec nous, justement, pour parler des propos qui ont suscité débat, polémique. Le voici, le Karcher, le revoilà! Elle a ressuscité le Karcher. Mais pour quelle raison, Madame Valérie Pécresse? Eh bien, nous allons comprendre les raisons, évidemment, qui vous ont poussé à revenir, à nous renvoyer à Nicolas Sarkozy. Ensuite, 19h30. C'est le billet d'humeur de Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale. Il est éditorialiste dans les différentes télévisions. Et il viendra nous filer, nous communiquer son regard sur, évidemment, Carte Blanche, qu'il nous livrera tout à l'heure en direct, 19h30. Et puis le face-à-face. Trois personnalités, trois débatteurs, trois influenceurs, Raïd Chaibi, Farid Aed et Mehdi Jaziri, vont confronter leur point de vue sur deux sujets d'actualité. Alors vous savez que les vaccinés et les non-vaccinés, ça a empoisonné les familles. Autant dire que ça a créé des conflits. Moi, j'en connais dans mon entourage qui se sont castagnés, comme disent certains dans le Sud. Ah non, mais c'est vrai que ça a provoqué une véritable fracture. Alors, justement, vous aussi, je vous écouterai tout à l'heure pour me dire, au 01 53 48 3000, est-ce que ça divise les familles ou bien au contraire, est-ce que ça installe un débat? Ensuite, nous irons nous intéresser sur, évidemment, un autre sujet qui est plus d'actualité, le Covid-19, vous le savez, et on reviendra sur cette forte actualité, et on aura aussi d'autres sujets notamment qui seront suggérés par nos amis auditeurs au 01 53 48 3000. Voilà le programme que je veux. Et bien sûr, sans oublier Pécresse et le Karcher. Ça, c'est le sujet aussi, évidemment, qui a retenu notre attention. Les enfants, mais c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farka.
C'est parti pour l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
L'interview du jour, vous le savez, c'est avec Noël Mamère, ancien journaliste. Noël Mamère aussi, également, ancien acteur politique, écrivain. Ravi de vous retrouver avec nous, monsieur Noël Mamère. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Bonne année.
Je vais très bien pour l'instant.
Pour l'instant.
Faut toujours ajouter pour l'instant dans la situation de pandémie dans laquelle nous nous trouvons.
Oui, exactement. Vous me renvoyez au film La Haine de Mathieu Kassovitz. Jusqu'ici, tout va bien.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu ça, en quelque sorte, quand vous me dites.
J'ai de haine pour personne.
Tant mieux, et j'espère nous aussi. Alors, Noël Mamère, vous êtes avec nous donc ce soir, en direct, dans Les Informés. Justement, le revoilà, c'est ce que vous dites, 7 ans après notre contre Zemmour. Que s'est-il passé, Noël Mamère, dans votre ouvrage? D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger cet ouvrage, Le Cas Zemmour, comment en est-on arrivé là? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a énervé à un moment?
Énervement, ça n'a rien d'un énervement, ce serait très, très rationnel ce que nous avons écrit. En effet, en 2014, avec Patrick Farbias, nous avions écrit Contre Zemmour, réponse au suicide français, qui était déjà un tissu d'infamie et qui ressemblait furieusement à son dernier bouquin, La France n'a pas dit son dernier mot. Et nous avions essayé d'analyser d'où venait cette furie Zemmour. Et notre éditeur nous a demandé
les petits matins,
vu la montée en puissance de Zemmour, de revenir sur lui et sur le contexte dans lequel il a prospéré. Donc nous avons dans un premier temps étudié ce qui s'est passé en France, en Europe et dans le monde, dans la montée des régimes illibéraux et des régimes autoritaires depuis 2014.
Oui.
Et puis nous sommes revenus ce que Zemmour incarne aujourd'hui, c'est-à-dire une extrême droite xénophobe, raciste, qui s'invente des ennemis de l'intérieur.
Alors je vous pose la question, Noël Mamère, oui. Comment se fait-il, vous venez de le dire, il incarne la xénophobie, le racisme, il a été d'ailleurs, vous le dites, doublement condamné par la justice pour discrimination raciale et haine religieuse, un polémiste qui continue de faire parler de lui, comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'il ait droit de cité, droit de parole, et qu'il continue évidemment, il est candidat même aujourd'hui? Est-ce qu'on a une explication?
qu'il ait le droit à la parole, ça ne me choque pas. Quand une démocratie est assez forte, elle peut accepter d'entendre toutes les paroles, à condition qu'il y ait des débats contradictoires et qu'on ait la possibilité de déconstruire ces paroles. C'est ce que nous avons fait dans notre livre. Pourquoi Zemmour a prospéré ? Parce que il est dans un pays qui est pétri d'incertitudes en ce moment, avec les inégalités sociales qui se sont creusées, avec la précarité dans le travail pour une bonne partie de la population, avec des discriminations qui continuent, qu'elles soient raciales, religieuses ou de genre, et aussi avec cette incertitude liée à la pandémie qui est un fait social total qui nous concerne tous et qui concerne tous les compartiments du jeu de la société, comme diraient les journalistes sportifs, et puis cette inquiétude qui est réelle des Français par rapport aux menaces que fait peser le réchauffement climatique sur nos vies et sur celles de nos enfants.
Parlons de votre ouvrage que j'ai lu attentivement et j'invite tous nos auditeurs à aller se le procurer. Il est bien ficelé d'ailleurs, on comprend mieux d'ailleurs comment on en est arrivé là. Vous dites un moment, dans le tout, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais je vais commencer par un chapitre qui m'a frappé. De quoi Zemmour est-il le nom ? Vous dites la machine infernale fonctionne à plein tubes. Mais moi ce qui m'interpelle, c'est que vous dites... Si le pays est aussi divisé aujourd'hui, si la défiance est partout, si le repli sur soi-même, les questions identitaires sans cesse remises sur le tapis, tue les débats sur les questions sociales pourtant prioritaires. Alors, aujourd'hui, je vous pose la question, comment on est arrivé là aujourd'hui pour que, évidemment, diviser pour mieux régner, y compris d'ailleurs tous les acteurs politiques aujourd'hui, Valérie Pécresse et sa sortie avec le Kärcher, Emmanuel Macron et je vous emmerderai, j'emmerderai tous les non-vaccinés. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui à essayer de faire, Noël Mamère, vous, en tant qu'ancien journaliste?
Écoutez, vous avez apporté la réponse dans votre question, si je puis dire. C'est-à-dire que nous avons dans ce pays, dans le débat démocratique, des responsables politiques que je considère moi plutôt comme irresponsables, c'est-à-dire qui, faute de projet, faute d'avoir répondu aux angoisses des Français, à la réalité de ce qui mine leur vie quotidienne, les questions sociales, comme je l'ai dit, les questions de pouvoir d'achat, les questions de santé, les questions d'éducation, eh bien, on préfère hystériser le débat en leur offrant des leurs que sont l'identité, l'immigration, les musulmans, et tout ce qui est étranger. Et c'est la raison pour laquelle ça permet à Zemmour d'exister dans le débat. Mais aussi bien la droite que la gauche portent une responsabilité collective sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. La gauche qui n'a pas été capable, depuis les années 80, de résister aux attraits du néolibéralisme qui a produit finalement Macron en 2017. Et puis la droite qui, elle, s'est comportée comme des braconniers sur les terres de l'extrême droite, en reprenant ces mots. Regardez ce qui s'est passé au cours de la dernière primaire de la République, de LR, les Républicains. Mais c'était un débat effrayant, un débat qui a été conduit sous l'ombre portée de Zemmour, avec toujours les questions d'identité, les questions d'immigration. Maintenant, Madame Pécresse, comme vous l'avez dit, veut ressortir le Kärcher. Ciotti ne la lâche pas d'une semelle, le même qui a dit pendant la primaire que s'il y avait un deuxième tour Macron, il voterait pour Zemmour. Donc il y a une défaillance terrible de la droite républicaine qui, ce n'est pas sain pour la démocratie, en même temps que une très grande fragilité et de très grand recul d'une gauche qui n'a pas été capable durant les 5 dernières années et de se reconstruire et de proposer une alternative aux Français.
Alors, dans votre ouvrage, comment se fait-il qu'aujourd'hui une partie de la population se retrouve dans les discours de Zemmour, se retrouve d'ailleurs dans la stratégie de Zemmour? Comment est-ce qu'on a une explication? Vous le dites, je sais, dans votre ouvrage, mais j'aimerais l'entendre, Noël Mamère.
Écoutez, c'est une population qui est paumée, comme je vous l'ai dit. Quand on ajoute à cela les effets de la mondialisation, qui, contrairement à ce que disaient les néolibéraux, n'est pas une mondialisation heureuse, alors que personne n'est contre la question de dire que nous n'avons qu'un seul monde, puisque quand on dit que nous n'avons qu'un seul monde, ça entraîne évidemment la question des solidarités, mais on ne peut pas dire que la mondialisation se soit construite sur la solidarité, mais plutôt sur le marché. Et quand les gens sont paumés, quand ils ont en face d'eux, devant eux dans le débat politique, des gens dont on ne sait plus s'ils sont à droite ou s'ils sont à gauche, une gauche qui s'est pervertie, une droite qui est devenue, qui s'est fait contaminer, si je puis dire, par les idées de l'extrême droite. Alors il arrive des personnages comme Zemmour qui, d'une certaine manière, en s'inventant des ennemis de l'intérieur, ils apportent de l'ordre dans la confusion, ça rassure, mais c'est un poison.
Noël Mamère, quel est le projet véritable d'Éric Zemmour?
Le projet de Zemmour, il s'en est jamais caché. Il a beaucoup travaillé avec un certain nombre de gens, je pense en particulier à Patrick Buisson, mais il s'inspire aussi de ceux qui, dès les années 68, avec Le Graisse et Alain de Benoît, ont travaillé idéologiquement à la société française, au point que maintenant ils sont en train de remporter une victoire culturelle avant qu'elle soit politique, et j'espère qu'elle ne sera, qu'elle n'arrivera jamais au stade politique. C'est en effet la question qui consiste à réunir à faire l'union des droites. Et donc le projet de Zemmour, bah, c'est d'unir la droite dite hors les murs, l'extrême droite, et une partie de la droite actuelle qui a été, que l'on a vu dans les manifs pour tous et qui se retrouve dans Sens commun, Civitas, c'est-à-dire toute une partie de cette droite intégriste. Et comme il s'agit de Zemmour qui, dans la famille, vivait en Algérie, c'est aussi cette droite nostalgique de la colonisation.
La droite nostalgique, dites-moi, Noël Mamère.
C'est évidemment appelé les nostalgériques.
Les nostalgériques, l'expression de Noël Mamère. Dites-moi, Noël Mamère, justement, est-ce que peut-on craindre, évidemment, qu'Éric Zemmour se retrouve au second tour face à Emmanuel Macron ou face à Valérie Pécresse? Quel est le schéma politique qui est en train de s'esquisser dans les prochains mois, dans 4 mois précisément?
Oui, c'est une situation quand même qui est très incertaine, puisque comme le disent tous les analystes, ils n'ont pas tort, le ticket d'entrée pour le deuxième tour sera beaucoup plus bas que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc la question, c'est de savoir de qui Zemmour est l'idiot utile. Et moi, je pense qu'il est l'idiot utile de Mme Pécresse, puisqu'il va empêcher Marine Le Pen de réaliser un score suffisant, peut-être, hein, pour arriver au deuxième tour. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que le président Macron ait fait cette sortie vulgaire en attaquant les non-vaccinés, parce qu'il savait très bien que Mme Pécresse était gênée aux entournures, si je puis dire, puisqu'une partie de son parti politique, de ses élus, on l'a vu à l'Assemblée nationale, n'a pas voulu voter le pass vaccinal. Donc il a montré qui est, il a désigné son adversaire, et c'est l'adversaire qui lui fait le plus peur, c'est Mme Pécresse.
Alors, dernière question, justement, Noël Mamère, avant de retrouver la ministre, Mme Nadia Hay, sur les propos de Valérie Pécresse, justement, et le Karcher, est-ce qu'on a changé la manière, la façon de notre rapport à la politique? D'ailleurs, dans le dernier chapitre, c'est ce que vous dites, vous l'abordez.
Bah, les Français sont en train de changer leur rapport à la politique, d'abord parce qu'il y a une très grande défiance qui s'est installée chez eux à force de promesses non tenues et de confusion politique entre droite et gauche. Et la démocratie, si elle veut être vivante, elle doit avoir une droite républicaine qui marche sur ses deux pieds et une gauche qui défende ses valeurs et son histoire, et une écologie qui aujourd'hui est arrivée, est au cœur de la préoccupation des Français, au cœur de ce qu'il faudra faire pour transformer notre société pour qu'elle soit vivable pour nos enfants. Et donc ce rapport à la politique, on le voit par exemple, qui a changé avec toute cette génération qui marche pour le climat, qui inscrit son combat pour le climat dans un combat beaucoup plus global, dans une conception beaucoup plus globale de la société, qui est une grande passion pour l'égalité, une très grande sensibilité à la question des minorités et une très forte détermination contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient de race, de religion ou de genre. Et c'est cette génération-là qui est déçue par les politiques et qui a envie de se mêler de ce qui la regarde.
Noël Mamère, ancien journaliste, figure emblématique évidemment de la politique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui vous écoutent partout en France en quelques secondes?
J'ai envie de leur dire, gardez les yeux ouverts. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui aujourd'hui vous montrent du doigt pour certains d'entre vous, et dites-vous bien que nous appartenons à une même société, à un même pays, et que nous avons tous un destin commun à défendre, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos origines.
Le cas Zemmour, c'est votre ouvrage avec Patrick Farbiaz, Zemmour président, donc c'est l'affiche qui est collée, adossée donc à votre ouvrage, le cas Zemmour aux éditions. Comment on est arrivé là? Et c'est aux éditions Les Petits Matins. Noël Mamère, merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci, à très bientôt. Autre invité, c'est parti, jingle.
Les Informés, l'interview.
Tout de suite, on reçoit celle que vous connaissez dans Les Informés, c'est Madame Nadia Hay. Madame Nadia Hay, bonjour.
Bonsoir Adi Serkan.
Bonsoir Madame la Ministre. Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Je voulais absolument que vous soyez avec nous ce soir dans Les Informés, parce que j'ai vu que vous aviez effectivement réagi aussitôt aux propos de Valérie Pécresse, avec évidemment le souhait de ressortir le Karcher. Vous lui avez répondu, qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui en direct dans Les Informés à Valérie Pécresse, vous, ministre de la Ville, Madame la Ministre?
Enfin, j'ai réagi en tout cas à ses propos. Ma réaction n'était pas forcément une réponse directe à Valérie Pécresse, mais plutôt une réaction sur ce que ça a provoqué en moi en tant que ministre de la Ville, mais en tant aussi qu'originaire de ces quartiers. Et je trouve vraiment lamentable aujourd'hui de reprendre des termes qui représentent un échec passé. Et de les reprendre pour finalement ne rien apporter dans le débat public, n'apporter aucune proposition pour répondre aux difficultés que rencontrent nos concitoyens en matière de sécurité dans nos quartiers, mais apporter un terme qui a ô combien blessé les habitants des quartiers et qui encore une fois stigmatise une partie de la population. Donc c'est en cela que j'ai réagi.
Alors, dites-moi, Madame la Ministre, vous savez, il y a quelque chose qui m'oblige à pousser la pub, parce qu'on n'a pas le choix. Si vous voulez bien, restez avec moi, on a quelques minutes de pub, et on se retrouve tout de suite après, ça vous va ?
Très bien, à tout de suite.
À tout de suite, hein. Ne bougez pas, restez avec nous, avec Madame la Ministre Nadia.
Les Informés revient dans un instant. Du Beurre FM, 19h-20h, Les Informés, avec Adil Farkan.
19h21, en direct, Les Informés jusqu'à 20h, nous sommes avec la ministre de la Ville, Madame Nadia Hay. Vous dites, Madame Nadia Hay, avoir grandi dans un quartier, vous vous dites blessée aussi notamment, vous répondez à Valérie Pécresse qui ressort, donc le Karcher. Qu'est-ce que vous dites un peu tous celles et ceux qui sont dans les quartiers populaires et qui se sentent blessés comme vous? Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous leur répondez, Madame la ministre?
Mais je pense qu'il ne faut absolument rien céder à l'outrance. Et ne pas se laisser déstabiliser par des propos comme ça qui n'ont aucun sens, qui sont évidemment blessants, mais c'est aussi montrer cette capacité à aller totalement à rebours de ce que peuvent avoir comme image ces gens qui s'adressent aux quartiers, qui parlent des quartiers sans avoir mis les pieds. Et donc c'est aussi ça la politique aujourd'hui que nous portons et le message que nous envoyons à nos quartiers. Vous savez, je crois que Valérie Pécresse, elle démontre parfaitement que pour elle, oui, les quartiers sont un problème pour le pays, pour la France. Pour Emmanuel Macron, il voit dans ces territoires un potentiel pour le pays. Quand il s'adresse aux quartiers, pour lui, c'est une richesse, c'est des talents, ce sont des talents qui s'expriment et qu'il faut accompagner avec la politique que nous portons. Et évidemment, sans renier, sans nier même toutes les difficultés qu'ils rencontrent, et on sait elles sont ô combien nombreuses.
Comment vous défendez-vous
leur appliquer cette double peine entre les difficultés, parce que c'est dur de vivre dans des quartiers, c'est dur d'être discriminé sans arrêt, c'est dur d'être dans une précarité, une pauvreté, une détresse, c'est dur au quotidien, et à côté de ça, ils vivent cette difficulté, et en plus, on leur ajoute cette stigmatisation. Moi, je trouve ça totalement injuste.
Injuste, justement. Comment vous défendez, Madame la Ministre, votre bilan, justement, gouvernemental, concernant les quartiers populaires?
Notre action, elle est multiple dans ces quartiers, parce que nous, on a fait le pari d'investir dans ces territoires, à la fois sur l'émancipation de chacun par l'éducation et par l'emploi, parce que on met en place des cités éducatives pour mettre de la qualité de l'éducation dans la scolarité des enfants dans les quartiers, la qualité d'accueil des enfants dans les quartiers en réhabilitant les écoles, en construisant de nouveaux équipements sportifs. À côté de ça, on a une politique de détermination sur la lutte contre le chômage pour favoriser la formation professionnelle, mettre en place finalement tous les moyens, tous les outils pour combler ce fossé qui existe entre les jeunes sans solution dans nos quartiers et l'emploi. On investit aussi en développant économiquement, en investissant sur la création d'entreprises, en ayant en donnant un soutien à des associations comme les Déterminés et d'autres pour aider ces jeunes à trouver un emploi et à s'en sortir. Et en même temps, on agit sur le cadre de vie, avec la rénovation urbaine, avec la tranquillité, en mettant des quartiers de reconquête républicaine là où c'est compliqué en termes de sécurité, pour lutter contre les trafiquants, pour lutter contre les séparatistes, tout ça pour le bien-être et le bien-vivre des habitants. Donc on a une action qui est sur tous les plans, éducation, emploi, sécurité. On met même des programmes de nature en ville dans nos quartiers, parce qu'on se dit que l'écologie, l'alimentation saine, c'est pas dédié à une partie de la population, c'est pour tout le monde, et aussi, et même j'allais dire, même beaucoup plus pour ces habitants dans ce territoire. Donc voilà, on a une action sur tous les fronts, on a un bilan, on sait ce qu'on fait. Valérie Pécresse, elle tape, elle stigmatise, mais elle ne donne aucune proposition de fond pour les habitants, et c'est bien ça qui est désolant.
Madame la ministre, Madame Ladiaye, dites-moi justement, dans 4 mois, donc évidemment, c'est l'élection présidentielle qui approche à grands pas, comment les quartiers populaires, vous leur dites quoi? Comment doivent-ils s'inscrire justement dans ce débat? Comment doivent-ils s'inscrire dans cette campagne? Comment doivent-ils s'inscrire justement pour exister davantage?
Ben moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que les habitants des quartiers, en tout cas, je n'ai pas évidemment de conseils à donner, mais en tout cas, il faut s'intéresser à la vie politique. Il faut écouter ce qui s'y passe, et il faut aller voter. Il faut faire entendre sa voix. Il faut aller se déplacer aux urnes pour dire, voilà, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais avec l'expression d'un vote. Le pouvoir des habitants des quartiers, c'est le vote. Et donc, il faut que pour qu'ils gagnent, justement, en écoute, en crédibilité, non pas auprès de notre majorité, parce que je peux vous dire que tous les jours je suis sur les terrains, tous les jours je suis à leur côté, mais quel que soit finalement ceux qui vont prendre le pouvoir dans quelques mois, eh bien qu'ils prennent justement en considération la voix de ces quartiers. Et pour pouvoir le faire, il faut se déplacer aux urnes, voter, s'intéresser, être critique, être force de proposition, et c'est ce que je fais au quotidien auprès d'eux, afin qu'on remette de la participation citoyenne, afin qu'on les amène à s'intéresser à la vie politique et la vie publique. Donc voilà, mon message c'est celui-ci, et encore une fois, continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui, et ce que je vois moi quotidiennement, c'est-à-dire ces jeunes qui ont envie de s'en sortir, ces jeunes qui ont envie de s'inscrire dans des démarches de création associative, d'associations, ces jeunes qui ont envie de créer des entreprises, ces jeunes qui ont envie de réussir, de faire des grandes écoles, continuez, on est derrière vous et on fait le maximum pour pouvoir être à vos côtés et vous apporter des solutions.
Merci Madame Ladiaye, donc ministre de la Ville. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Les Informés. Merci à vous.
Merci à vous, bonne soirée.
Bonne soirée, 19h26, le face-à-face, c'est parti.
Les Informés, le face-à-face.
Rayed Chaibi, président de la coopération, de l'association de la coopération franco-économique et franco-tunisienne. Bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Très bien. Farid Aed, justement, il est élu sur Pierrefitte, mais également aussi député suppléant. Comment ça va?
Bonsoir les auditeurs et les auditrices. Bonsoir Adil, ça va très bien.
Bonne année à vous.
Et bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices.
Mehdi Jaziri, journaliste indépendant, mais pas que, il est aussi étudiant. Comment ça va?
Ça va pas du tout.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, je viens d'entendre, de ce que je viens d'entendre, là, ça m'a cassé mon moral, là.
Ah bah, on n'en parlera.
Ouais, ne vous inquiétez pas, on va en parler.
Il n'y a pas de problème, les propos de Valérie Pécresse. Alors, justement, messieurs, nous allons commencer justement avec ce premier sujet qui nous a hautement, évidemment, empoisonné nous-mêmes. Il paraît qu'il empoisonne la vie sociale, la vie familiale, et qui crée même d'ailleurs des conflits entre d'un côté, les vaccinés et de l'autre, les non vaccinés. Les pros, les anti, etc. et les contre. Alors, Rayed Chaibi, est-ce qu'il y a un consensus à trouver, évidemment, quand on est une famille avec des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents aussi parfois, et que ça génère, vous savez quoi, et ça empoisonne notre quotidien?
Oh ben, les conflits déjà intrafamiliaux.
Et ça crée des fractures.
Les fractures, elles arrivent avec ou sans vaccin. Donc, j'ai envie de vous dire, là-dessus, ça change pas trop.
Oh, mais sauf que ça crée un fossé énorme. Quand j'avais un frère d'un côté et l'autre sœur, et qui se parlent plus pendant maintenant deux ans.
Oui, bien sûr. Mais à vrai dire, ce fossé-là, il était déjà craint par le gouvernement, si j'ai bonne mémoire, déjà dès l'été dernier, quand il a fallu accélérer le rythme de la vaccination. Donc, c'était attendu. C'était attendu qu'il y ait ce type de fracture entre ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, ceux qui... bien sûr que c'était attendu.
Je dis pas
que c'était préparé. Ah. Je dis que c'était déjà craint par le gouvernement déjà dès le mois de juillet 2021. Mmh. Je crois que c'était même Jean Castex qui avait fait part de cette crainte-là. On y arrive et j'ai envie de dire c'était attendu. C'était attendu.
C'était attendu, oui. Paris d'aide. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement? Vous êtes un élu local. Qu'est-ce qui se dit entre les pro-vaccins, les anti-vax, les... et toutes ces familles qui se déchirent aujourd'hui?
Ben, moi, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je suis pour la vaccination, mais en même temps, je crois que les coups du gouvernement sur les masques obligatoires, après, ça sert à quelque chose, après, ça sert à rien. On avance, on recule. À chaque moment, ça a déstabilisé. Aussi avec les différents vaccins. AstraZeneca, vous vous rappelez, il y avait un problème avec ce vaccin-là. Après, il fallait pas, tout le monde voulait faire du Pfizer. Maintenant, on a le problème avec Moderna. Ça veut dire je suis désolé, mais le gouvernement navigue à vue. Et malheureusement, ben ça se ressent au niveau des habitants, et ça se ressent aussi au niveau des familles. Parce qu'il y a des familles qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va nous mettre dans le corps? Et c'est ça c'est ça qui est compliqué, et qu'on voit pas le bout du chemin. Et que maintenant, on se retrouve avec
vous avez des familles aujourd'hui qui se parlent plus.
Oui, on a un problème économique. On a un problème économique, social
ça va loin,
et familial.
Et familial. Vous savez quoi, ça va loin, c'est que ça va même d'ailleurs au point où même l'un des deux parents meurt à cause de peut-être d'une décision familiale. L'un qui était non, tu y vas, on va faire vacciner notre père. L'autre qui dit non, surtout pas, etc.
Et vous croyez qu'avec le pass vaccinal, ça va régler les choses? Il y a eu pass sanitaire, il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont fait un faux pass sanitaire. Vous croyez qu'avec déjà 200 000, c'est beaucoup. Alors s'il y en a plus, c'est encore pire. Et là, il va avoir le pass vaccinal qui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que la difficulté, on voit bien même des jeunes ne veulent pas se faire vacciner. Pas oui, parce que ils sont pas citoyens. Ouais. C'est pas ça la question. C'est parce que ils se disent pourquoi on nous oblige. Bah, elle est où cette jeune, liberté?
En parlant de jeunes justement, Mehdi Jaziri. Alors, ces familles qui se déchirent.
Bon, je pense que les familles qui se déchirent, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a des gens qui vivent tout seuls et qui sont dans un état déplorable aussi. Ouais. Non, en fait, moi, je pense sincèrement que, en fait, c'est les doses successives qui commencent à créer vraiment le problème. Là, je vois même dans mon entourage, hein, il y en a qui ont fait les deux doses, ouais. Qui troisième dose n'ont pas envie de la faire.
N'ont pas envie de la faire.
Bon, maintenant il y a le pass vaccinal. Ouais. Maintenant qu'il y a le pass vaccinal, ils vont la faire, mais tout le monde est énervé. Ouais. Donc, et puis Emmanuel Macron avec sa petite phrase.
Ah, le pass vaccinal. Attendons le Sénat maintenant. Hein.
Oui,
il faut que c'est le Sénat.
C'est bien. En deuxième lecture.
À mon avis, ils vont se faire retoquer au Sénat.
Bien sûr, oui. Le Sénat va faire des modifications. Et j'espère qu'ils font des modifications. Et je les appelle, toutes et tous, à faire des modifications sur ce pass vaccinal.
Moi, j'appelle personne à rien faire là-dessus. Je reste neutre là-dessus. Mais en tout cas, oui, non, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, il a été progressif. Et qu'après, bon, ce ras-le-bol.
Moi, je parle des ras-le-bol au sein d'une même famille.
Ah, mais oui,
attention, moi, je parle pas d'une façon globale.
Enfin, je veux dire, c'est la même chose chaque année.
Regardez,
à cette période-là de l'année, tout le monde en a marre parce qu'il y a le retour des. L'année dernière, c'était les couvre-feux, les confinements. Là, cette année, c'est les passes, c'est les restrictions pour aller dans différents endroits. Et vers l'été, bah, ça y est, on peut sortir un peu plus, on peut retirer le masque. C'est toujours comme ça. C'est l'hiver et ça va pas, et l'été, ça va.
Non, mais c'est vrai, ce qu'il dit aussi Adil, c'est la problématique, c'est vrai. C'est que dans un foyer, comment on peut vivre ensemble où à un moment donné, il y a une partie qui se fait vacciner. Et qui est dans l'obligation, et l'autre partie qui disent non.
Moi, je connais comment des familles qui ne parlent plus. Hein.
Voilà, comment
moi, je
on
connais
peut
des
faire,
familles qui ne parlent plus.
Voilà, ça crée vraiment des difficultés familiales.
On revient débattre justement sur les vaccinés, les non-vaccinés, la fracture, les déchirures, les clashs au sein d'un même foyer. Nous reviendrons sur ce sujet, notamment Valérie Pécresse et Le Kercher, 19h32, avec quelques minutes de retard. Tout de suite, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Avec Michel Taube. Bonsoir, Michel Taube.
Bonsoir Adil.
Bonne année, bonne santé, cher Michel.
Meilleurs vœux à vous, à vos proches et à tous les auditeurs de Beurre FM.
Je le rappelle, vous êtes éditorialiste dans les différentes chaînes de télévision, mais aussi, surtout, le fondateur d'Opinion Internationale. Et vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, eh bien, à l'intérêt de Pécresse à donner ses parrainages à Zemmour. On vous écoute.
Alors oui, effectivement, depuis le début de l'année 2022, c'est-à-dire depuis le début de la semaine, plusieurs sondages montrent que finalement, ça risque d'être très très serré pour la qualification au second tour de l'élection présidentielle entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Mmh. Et donc, la question cornélienne que doit se poser Valérie Pécresse, exact, et l'équipe de Pécresse, c'est est-ce que il n'aurait pas intérêt à assurer les 500 parrainages dont a besoin Éric Zemmour. On l'a entendu cette semaine sur plusieurs plateaux de télé dire qu'il n'avait pas assez de parrainages, demander à David Lisnard, le maire de Cannes et président, exact, de l'Association des maires de France, de l'aider, lui et quelques autres candidats, à avoir ces parrainages. Mais en fait, on est vraiment dans une situation incroyable, c'est que vous parliez tout à l'heure de la division qu'il peut y avoir dans les familles à cause du Covid, oui, et de la vaccination. Eh ben, y a une autre famille qui est en train de se déchirer, c'est la famille de l'extrême droite, des nationalistes, comme je les appelle. Et eux, en fait, entre Marine Le Pen et Zemmour, c'est la guerre totale qui va démarrer, là. C'est vraiment la guerre totale. Oui. Et en fait, imaginez que Zemmour n'ait pas ses parrainages. Imaginez qu'il ne les ait pas. Qu'est-ce que ça va donner?
Ah bah...
Ça va faire que Marine Le Pen va passer de 17-18% dans les sondages à plus de 25-26%. Elle va récupérer la plupart des voix d'Éric Zemmour. Et du coup, ça disqualifierait Valérie Pécresse de sa qualification au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et donc ça, évidemment, pour l'éviter, elle a un intérêt objectif. Il est objectif, il est arithmétique. C'est d'aider Éric Zemmour à avoir ses parrainages. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres des dysfonctionnements de notre système politique qui marche vraiment sur la tête, qu'il faudrait réformer en profondeur, l'élection du président de la République suivie des législatives. Il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas. Mais là, il y a vraiment un paradoxe incroyable, oui, c'est que des républicains, pour s'assurer la possibilité que Valérie Pécresse se qualifie au second tour, vont peut-être filer le coup de main décisif à Éric Zemmour.
Ça, pour c'est terrible.
Ils se maintiennent en place et qu'ils maintiennent la division entre les électeurs de l'extrême droite, ce qui lui permettrait peut-être, c'est pas gagné, mais ce qui lui permettrait peut-être de passer sur le fil au deuxième tour face à quelqu'un qui, lui, alors là, Emmanuel Macron, c'est très difficile à expliquer, qui, encore une fois, dans un sondage qui vient de sortir, le Parisien, France Info, Ipsos, qui est très en avance, qui a 26% d'intention de vote, malgré la crise Covid, malgré le bilan comme un fort mitigé qu'on pourrait dresser de son quinquennat, et ben lui, alors, c'est vraiment la course en tête, et je crois qu'il bénéficie au final beaucoup de la division et de l'éclatement de la gauche. Et bref, vous savez, le pilier de gauche du en même temps macronien qu'on avait beaucoup oublié pendant 4 ans de gouvernance quand même assez à droite, et ben là, il va revenir au galop dans les dernières semaines avant l'élection présidentielle. Mais voilà, en tous les cas, il y a ce paradoxe qui est incroyable, c'est que les Républicains vont peut-être aider Zemmour à se qualifier pour l'élection présidentielle.
Le paradoxe,
voilà ce que je voulais dénoncer, parce que c'est un petit peu un coup de gueule dans le sens où tout cela ne paraît pas très sain et me paraît un peu marcher sur la tête quand même d'un point de vue démocratique.
Et bien merci pour ce coup de gueule, votre billet d'humeur comme chaque vendredi. Vous êtes éditorialiste et le patron d'Opinion Internationale, un site de médias en ligne. À vendredi prochain, sans faute, Michel Taube.
À vendredi, merci Adil et bonne soirée aux auditeurs de Beurre FM.
Merci, bonne soirée, 19h36, nous allons lancer la pub et on se retrouve tout de suite après avec Raed Chaibi, Farid Ed, Mehdi Jaziri, vous aussi au 01 53 48 3000. Alors, je vous attends au standard. Une question que je dois vous poser. Est-ce qu'il vous est arrivé à vous déchirer au sein d'un même foyer, au sein évidemment d'une même famille, entre vous, frères, sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, vous déchirez pour l'un qui dit il faut vacciner les parents ou les grands-parents et d'autres qui disent qu'ils tirent dans l'autre sens. Non, ils ne doivent pas être vaccinés jusqu'à ce que parfois le drame arrive. Eh oui. 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informer avec Adil Farkan.
19h39, justement, 01 53 48 3000. Avant de retrouver nos débatteurs concernant les vaccinés d'un côté, les non-vaccinés de l'autre, les décisions, les fractures, les déchirements, les clashs, les batailles. Ben Amar de Paris, 01 53 48 3000. Bonsoir Ben Amar.
Bonjour, ça va ? Bonjour.
Très bien. Bon, je vous écoute alors. Dites-moi pour les vaccinés, les non-vaccinés. Comment vous le vivez-vous ?
Moi, je suis contre. Moi, je suis vacciné, ça va, je suis obligé, parce que pour le travail, obligé, obligatoire.
Oui.
Le vaccin, c'était...
Et au sein de vous, et dans la même famille, vous avez eu des contre et des pour ?
Non. Moi, ils sont tous partout vaccinés, presque, pratiquement.
Alors, le problème ne se pose pas.
Il y a des regrets, quoi. Pardon ?
Il y a des regrets ? Ah tiens, des regrets de quoi ? D'avoir été vacciné.
Vaccin parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans.
Ah ça aussi, j'avais pas vu les choses comme ça. Se faire vacciner et regretter d'avoir été vacciné.
Vaccin, il y en a des millions.
Vous savez quoi ce que vous dites, Ben Amar ? Il y en a beaucoup qui, à l'antenne, j'ai notamment en tête une femme qui disait avoir regretté d'avoir été vaccinée parce qu'aujourd'hui elle est malade à vie.
Ouais, l'effet secondaire, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais,
sur les effets secondaires.
Moi, j'ai eu mon deuxième dose, Pfizer, par exemple, la deuxième, ça fait mal à la tête. La deuxième, ça veut dire pendant une
journée. Elle, c'était un problème au cœur. Ça lui a généré un problème au cœur à vie.
Ah, là, ça veut dire peut-être elle est allergique au vaccin, Luna. Certains sont allergiques au vaccin.
Oui. Mais bien avant, j'avais pas vu les choses comme ça. J'avais pas vu le regret de. D'avoir été vacciné. Benamar, merci pour votre témoignage.
Ouais. Bah oui, bah moi je suis pas trop les vaccins, franchement.
Vous êtes pas trop les vaccins.
Non, bah je vois pas les vaccins.
Bon, on l'aura compris.
Mon corps il marche bien.
Avec les
vaccins. Il y a pas de problème, c'est pas mal pour des gens, vous voyez ce que je veux dire.
Bon, bah, merci Benamar.
Ok, merci beaucoup. Hein.
Ouais. Merci. C'est vrai qu'on n'avait pas vu les choses comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est
vrai. Le regret d'avoir été vacciné. Ouais. Messieurs, avant de passer au second chapitre, franchement, est-ce qu'il y a une chose qu'on peut, évidemment, comme le dit Benamar, regretter au sein de ces familles? 0153 48 3000, continuez à nous appeler justement pour nous faire part de ces fractures au sein d'une même famille. Farid Ed.
Ouais, non, mais c'est vrai que.
Vous êtes élu, parfois vous êtes confronté à ces familles.
Moi, je suis confronté à des familles où il y a des familles qui.
Vous m'avez raconté hors antenne une anecdote, racontez-la nous, là.
Ah oui, une anecdote où il y a une famille, ils sont une famille de neuf, il y a les enfants, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et les parents, ils sont pas vaccinés.
Ouais.
Et il y a une partie qui disent non, il faut pas les faire vacciner, ils sont trop âgés, etc. Et il y a une autre personne de la famille qui dit non, mais on va aller faire vacciner, là, ça commence à monter un peu trop, il y a beaucoup de cas, etc., on va les faire vacciner. Eh ben, tellement qu'elle hésitait avec ce qui se passe, avec les interrogations, là, elle s'oblige à s'interdire elle-même de dire à ses parents de se faire vacciner. Pourquoi? Parce que si ses parents, il lui arrive quelque chose,
c'est ça.
Quand ils seront vaccinés, eh ben, les autres, ils diront, ouais, mais c'est ta faute, on t'a dit, regarde, elle allait bien, etc., depuis un an et demi, maintenant, elle s'est fait vacciner, elle commence à être malade, elle commence à alexer, etc. Ça veut dire qu'on a tous les schémas. Malheureusement, on a tous les schémas.
On a tous les schémas.
Et ouais, on a tous les schémas.
Cette fracture soit dans la société, c'est déjà agréable, mais que cette fracture devient intrafamiliale, je trouve que c'est terrible.
Non, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et c'est
ridicule,
pour ça.
Surtout.
Tenez,
ridicule. Parce que
pourquoi?
Que les Français soient divisés, bon, ça c'est pas la première fois. Ça arrive tout le temps. Enfin, on a l'habitude, les Français, quoi, voilà. Mais que les familles se divisent par rapport à ça, c'est ridicule. On peut avoir des désaccords. Moi, je pense que dans le cas de ce que vous dites, la fille doit faire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle pense.
On va aller direction Dreux.
Voilà.
Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile.
Dreux, du côté du 27, je crois. Amina, bonjour Amina.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute, ma chère Amina.
Eh bien voilà, moi je témoigne aussi.
Alors témoignez, ça nous intéresse.
Moi, on est 9 enfants. Et sur les 9 enfants, on s'est pratiquement tous fait vacciner les 2 doses. Sans obligation. Nous, on s'était vaccinés très tôt. Mais j'ai un frère et une sœur, ils veulent pas se faire vacciner. Pour nous, ça nous embête pas du tout.
Ouais, ça vous embête pas.
Non.
Ouais.
Chacun il fait comme il peut et comme il veut. Et moi, je comprends ma petite sœur, par exemple, qui a pas envie de se faire vacciner. Moi, je comprends qu'elle puisse se sentir faible et qu'elle ait pas envie de le faire. Et d'autre part, pour moi, par contre, je regrette vraiment de m'être fait vacciner.
Ouais, c'est le deuxième regret. Hein. Vous vous rendez compte quand même? Ça fait beaucoup quand même. Hein.
Ouais, voilà.
Mais pourquoi?
Je sais pas, non, dire on va l'écouter. Hein.
Ouais.
Qu'est-ce
qui vous fait regretter?
Moi, j'ai des maux de tête que j'avais pas avant. J'ai jamais eu mal à la tête.
Ils sont récurrents?
Moi, je sais pas ce que c'est.
Ils sont récurrents?
Ouais, oui, quand même, je trouve.
Ah oui? Vous avez tout le temps mal à la tête?
Oui.
Avant, vous n'avez pas mal à la tête avant?
Non, je ne connaissais pas, je ne savais pas.
Vous pouvez échanger avec elle,
hein? Oui.
Farid Ed.
Ouais, non, c'est. Par rapport à ce que vous dites.
C'est Amina qui est avec nous.
Amina, bonsoir Amina. Ouais, ça me fait réagir ce que vous dites parce que c'est vrai que plusieurs personnes que je rencontre, c'est vrai que comme on ne sait pas, c'est ça aussi l'inquiétude. Comme c'est un vaccin qu'on ne connaît pas, et comme on ne connaît pas, il y a des effets indésirables. Et on n'est pas tous mis à la même enseigne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit certaines personnes, malheureusement, ils n'avaient pas moi, une personne m'a dit, par exemple, par rapport à avant, elle était très dynamique, etc. Maintenant, elle se trouve souvent fatiguée, elle est plus lente, etc.
Vous êtes tout le temps fatiguée, Amina?
Je n'ai pas envie d'y aller, alors qu'avant, j'avais la pêche, j'avais le moral.
Vous avez quel âge, Amina?
38.
Vous êtes jeune, Amina. Vous êtes super jeune.
Oui.
Mais attendez, mais moi, ça m'interroge.
Oui.
Elle est jeune.
Vous avez été voir un
elle a tout le temps mal à la tête. Et en plus, elle est fatiguée. Mais dis, Jaziri, vous posez une question.
C'est le contexte aussi qui fait ça aussi. Hein. C'est, bon, bah, ça dure, hein, et puis cette histoire...
Attention, il y a aussi l'effet d'angoisse.
On oublie le côté économique, quoi. À vrai dire, nous, on a beaucoup perdu de clients. Enfin, voilà.
Mehdi Jaziri veut vous poser une question, Amina.
Amina, bonsoir. Est-ce que vous avez été voir un médecin?
Non, je suis pas très médecin, à vrai dire. Je suis vue sur différentes choses.
Je suis vue sur différentes choses. Amina, il y a aussi le volet anxiété qui joue énormément sur l'ambiance délétère et qui rejaillit aussi sur notre corps. C'est-à-dire que si vous êtes anxieuse, si vous êtes angoissée, forcément, vous serez tout le temps fatigué et forcément, vous aurez toujours mal à la tête. Il y a peut-être aussi de ça, hein, Amina.
Le contexte actuel fait.
Voilà, Amina. Moi, ce que je vous dis, c'est voilà, prenez soin de vous. Allez au travail. Avec un peu de pêche, effectivement, c'est pas. Allez, dernier sujet qui a retenu notre attention. Mais c'est intéressant, les auditeurs.
Et tout à fait.
Qui regrettent. C'est déjà de trop. Valérie Pécresse et sa sortie avec le Karcher. Elle le ressort. On l'avait entendu avec Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, c'était en 2005. Que se passe-t-il? Elle veut démarrer une campagne pour se faire entendre, Ray JB?
Vous savez, la phrase exacte, même si vous me permettez, Adil, c'était je vais ressortir le Karcher des caves pour nettoyer les zones de non-France, pour être précis.
C'est ça.
Alors, moi, je ne conteste pas sa volonté d'appliquer ce qu'on appelle une politique dite d'autorité pour lutter contre la délinquance, le trafic qui, à l'évidence, effectivement, gangrène nos quartiers. En revanche, j'en ai plus que marre, et encore je suis poli, j'en ai plus que marre d'entendre
comme Michel
Thaume
voulait passer un coup de gueule.
Exactement. J'en ai plus que marre, et moi j'ai un problème, contrairement à ce que disait Michel Barnier, je crois ce matin, en disant moi ça me pose pas de problème ce genre de terme, moi ça m'en pose un.
Il a dit ça sur France.
Exactement. J'ai un très gros problème et j'en ai marre de ces termes-là qui, indirectement, même si je sais qu'elle ne visait pas les habitants dans leur ensemble de ces quartiers, indirectement, quand on emploie ce type de terminologie, quand on emploie ce type de sémantique,
c'est vrai,
indirectement, les victimes collatérales en sont les habitants, qui sont déjà discriminés, qui sont déjà stigmatisés dans ces quartiers-là. Donc ça vient rajouter de la stigmatisation, exact, et de la discrimination. Donc autorité dans ces quartiers-là, je n'y vois pas d'inconvénient. En revanche, dans ces quartiers-là qui concentrent des difficultés, c'est évident, on ne va pas nier le contraire. Moi, j'aurais plutôt aimé, en tout cas, si Valérie Pécresse nous écoute, je lui lance ce message, mais moi, j'aimerais plutôt entendre, certes, une politique d'autorité, pas de problème, mais moi, je suis plutôt un adepte également, on va dire, d'un engagement ou d'une initiative qui soit, et d'une approche plutôt, une approche préventive, globale et coordonnée avec les services de l'éducation nationale, avec les collectivités territoriales, avec les acteurs associatifs et les élus. Nous en avons un à côté, il pourra certainement le dire mieux que moi. Il faut une synergie de proximité, il faut un dialogue inclusif, il faut une action de terrain, un dialogue de proximité et pas, cette espèce de politique de mots qui en réalité aura des conséquences désastreuses déjà que nous avons des quartiers qui sont malheureusement discriminés.
Enfin, j'en ai ras le bol. Alors ça, c'est le coup de gueule, c'est rare d'entendre. Il y en a quelques-uns comme ça, le coup de gueule de Rayet Chaibi. Mais bon, c'est son coup de gueule. Alors est-ce qu'on aura un coup de gueule aussi?
Moi c'est pas un coup de gueule, moi c'est les politiques, comme ils ont pas, en tout cas certains n'ont pas grand-chose à dire, il faut qu'ils disent des petites phrases. Alors la petite phrase, c'est le Karcher. Il y a quelques jours, c'était Macron, je vais emmerder les non-vaccinés, comme si que il était à la hauteur de ça, président de la République. Il est là pour rassembler, il est là pour convaincre. Non, lui, il veut diviser. Moi, je trouve que c'est pas à la hauteur, en tout cas, de notre pays et des habitants de notre pays. Mais en même temps, Valérie Pécresse, comme elle a rien à dire, parce qu'elle est d'accord sur le pacte vaccinal, eh ben il faut bien qu'elle sorte quelque chose. Eh ben là, elle sort ce que on nous a rabâché. En fin d'année, l'immigration, la sécurité, vous vous rappelez des débats? Les débats de la primaire, ils ont parlé que de ça. Apparemment, en France, il n'y a qu'un problème, c'est le problème d'immigration, C'est le problème de sécurité et de religion. C'est ce que j'allais dire à Adil. Sinon, il n'y a pas d'autres problèmes. Moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes qui sont importants. Il y a les problèmes de santé, et on le voit bien avec le Covid, même si, moi, quand je parle du Covid, quand de santé, c'est pas que le Covid. C'est la santé en général. C'est le manque de moyens. Parce qu'on nous disait aujourd'hui qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui sont dans les hôpitaux. Macron, en 5 ans, il a fermé 17 000 lits. Ça veut dire que s'il n'aurait pas fermé ces 17 000 lits là, eh ben, on n'aurait pas de problème. C'est qu'il faut parler de général.
Les hôpitaux sont malades.
Et la deuxième chose qui est importante, Adil, aussi, c'est que, aujourd'hui, là, si on parle, pourquoi parler de sécurité? Les habitants, ils ont besoin de quoi? De confiance. Ils ont des problèmes de chômage, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes d'emploi, etc. Les habitants, ils ont besoin qu'on leur donne une perspective.
Donc et on voit bien avec la dame. Continue, Farida, de les stigmatiser.
Ben, encore, on voit bien avec la dame qui disait tout à l'heure. Elle se sent pas bien depuis que elle a fait le vaccin. Elle se sent pas bien. C'est pas ça. C'est le climat.
Parce que
le climat, il est délétère. Climat, il est négatif. Et nous, et les politiques, au lieu de remettre un peu de souffle et un peu de positif, non, on va dans des petites phrases. Karcher. Ben, si elle veut nettoyer le Karcher, nettoie son programme avec le Karcher. Comme ça, on verra, peut-être il y aura un peu plus de choses.
Tiens, on va faire, et je vous reposerai justement une question concernant le Karcher. Mais dis, Jaziri,
alors moi, je vais être calme pour une fois. Sincèrement, moi, je vais vous dire, les mots de Mme Pécresse ne me dérangent pas.
Oui.
Bon. Ce ne sont que des mots.
Eh bien, ça va provoquer un débat.
Ce ne sont que des mots pour moi.
C'est pas que des mots.
Je vais vous expliquer. Moi, j'essaie de voir plus loin.
Eh bien, vous écoutez, ça va justement, je voudrais entendre les autres.
Pour moi, ça s'inscrit dans la campagne présidentielle de cette année, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que chacun essaye d'avoir un peu son emblème, un peu comme si on était sur la Ligue des Champions, chacun son équipe de foot, en fait. Donc là, elle essaie de reprendre les mots de Sarkozy parce qu'elle avait besoin justement d'avoir une image forte, si je puis dire. Et puis, le problème de sécurité, c'est un problème aussi qui divise aussi beaucoup. Et on l'a vu aujourd'hui, diviser pour mieux régner. C'est la stratégie de chacun aujourd'hui, oui, finalement. C'est-à-dire que chaque candidat le fait.
Oui, mais on peut parler de sécurité, Mehdi, sans parler du Karcher. On peut parler en se disant, il y a un problème de sécurité dans le pays.
Encore une fois, je vous l'ai dit, ce ne sont que des mots.
Président de la République.
Ce qui me dérange, c'est pas le terme, c'est pas le mot, c'est la globalité. C'est tout ce qui se passe en ce moment, c'est la division de chacun. C'est-à-dire Mélenchon de son côté qui se met dans son coin, Emmanuel Macron qui se met sur son trône, Éric Zemmour, Gargamel dans le coin qui se cache. Au bout d'un moment, on a chacun justement ces petites étiquettes. On rassemble le peu de Français chacun.
Vous avez été chercher Gargamel.
Ils sont à Gargamel. Je veux dire, en fait,
je m'attendais à la
suite. Tous les jours, je suis ici.
Restons sur Eric Zemmour.
Voilà, c'est ce que je dis tous les jours ici. On est dans une émission de télé-réalité où chacun essaie de prendre les grands titres, les grandes phrases où chacun se tire dessus. Et là, le Karcher, c'était un peu.
Tout à l'heure, tu me disais tout à l'heure en off, oui, les jeunes, ouais, ils vont plus voter, oui. Ils ont marre. Tu crois que parce qu'elle dit ça,
exactement,
ces mots-là, Karcher, emmerdeur et tout, que les jeunes, exactement, ils vont plus aller voter?
Je ne suis pas en train de prendre la défense de Valérie Pécresse. Je ne suis pas en train de prendre la défense de Valérie Pécresse. Attention là-dessus. Je suis en train, justement, au contraire, de dire qu'elle s'inscrit parce qu'elle ne crée pas la différence en faisant ça. Pour moi, encore une fois, ce ne sont que des mots qui s'inscrivent, en fait, tout simplement. Pour moi, en fait, je suis simplement désespéré. Voilà, comme tous les jeunes, je suis désespéré. Pour moi, c'est simplement quelque chose qui s'inscrit dans la
vie.
On n'en doute pas, mais les conséquences, et tu peux pas le nier, les conséquences sont terribles.
Oui.
Les conséquences sont terribles parce que déjà qu'il y a une fracture, il y a une de confiance claire déjà entre la jeunesse et notamment la jeunesse de ces quartiers que nous connaissons bien sûr très bien. Alors si en plus on rajoute cette terminologie vieille en plus d'il y a 16 ans et qui a encore ses traces dans ces quartiers-là, dans un département que nous connaissons, la Seine-Saint-Denis, si en plus on en rajoute, ça ne va pas améliorer les choses. Et en plus, ce qui me fait doucement sourire, et je dis ça de manière ironique, c'est que les petites phrases ensuite après cette déclaration, en disant oui, mais ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'il faut effectivement rétablir l'autorité. Mais alors pourquoi ne l'a-t-elle pas dit comme ça?
Oui.
Hein,
pourquoi employer, quand il s'agit de nos quartiers, pourquoi employer le Karcher,
Dans l'ordre, je dis Jaziri, Farid,
il y a d'autres sémantiques.
S'il vous plaît.
Madame Pécresse, c'est assez drôle, parce que quand Madame Pécresse devait s'occuper du budget, elle a quand même supprimé 12 000, je crois, postes de gendarmes et policiers. Elle a supprimé aussi des postes de greffiers. Enfin,
bien sûr, quand elle était
dans le bordel. Mais en fait, voilà, en fait, finalement, moi, ce que je dis là-dedans, c'est que Madame Pécresse, finalement, s'inscrit voilà, dans toute la division qu'on a en France. Et puis, moi, pas. Voilà, parce que c'est bien de critiquer, mais maintenant aussi, il faut proposer des solutions. On est là pour ça aussi, j'imagine. Moi, je pense, je vais vous dire sincèrement, que pour moi, le salut d'une ville, par exemple, parce que j'ai écouté tout à l'heure l'interview que vous avez faite de la ministre, comment s'appelle
Madame Nadia.
Sincèrement, moi, je vais vous dire, le salut d'une ville ou d'un quartier, je parle surtout des quartiers, parce que c'est ce que je connais le mieux, parce que je viens d'un quartier moi-même, ça se fait par les associations.
Mais bien sûr,
ça se fait
c'est vrai.
Par les villes. Bien et sûr, surtout, moi, j'aimerais rappeler le fait que, voilà, et bon, c'est un peu ironique parce que M. Emmanuel Macron a quand même retiré de l'argent aux villes.
Il a réinjecté.
Il n'aura pas fait confiance. Vous rappelez au salon des maires, il aurait dit que les élus, c'était pas eux qui faisaient la paix le beau temps. Et après, comme il a vu qu'il y a eu les gilets jaunes, etc.
Il a rajouté
il est revenu.
D'ailleurs, la ministre est venue ici. Farid, vous devez donner la parole à Farid.
Merci, Adil. Non, la question, c'est prenons les sujets. Prenons les sujets. Voilà, on parle des sujets de sécurité. Prenons-les correctement. Voilà. Comment on les règle, les questions de sécurité? Mais quand on parle de sécurité, c'est partout. C'est dans les milieux ruraux, mais c'est aussi dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, les gens aussi veulent vivre en sécurité. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a travailler aussi sur le volet prévention. Tu le disais tout à l'heure. Ce qui est important, travailler sur la prévention, sur la médiation, travailler avec les associations. Ça veut dire, c'est tout un volet. On peut pas sortir une phrase comme ça en se disant, voilà, aïe, on a fait le buzz, tout le monde va parler du Karcher, voilà, etc., moi je vais arriver, etc. Ouais, voilà, c'est méprisant. Mais dit, c'est méprisant. Ah, oui. Le mot, il est méprisant. Mais, il est méprisant pour les gens. Et ça va rien régler.
Cette émission. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un débat effectivement intéressant qui pour continuer des heures et des heures.
Voilà,
merci à Rayed Cheibi, président de l'association franco-tunisienne. Merci à l'élu de Pierrefitte, Farideh, député suppléant notamment. À très vite.
À très vite, à très bientôt.
Peut-être à la semaine, dans les 10 jours qui arrivent.
Voilà, sans problème, avec plaisir.
Merci à Mehdi Jaziri, journaliste indépendant et étudiant aussi notamment. Et n'oublions pas votre manifeste, rappelons-le.
Lequel de Léon, cette proposition jeunesse.
C'est ça, de Léon,
voilà, proposition de la jeunesse. Merci,
merci à vous tous, à la réalisation, c'était Yanis. Merci aux auditeurs qui ont évidemment témoigné au 0153 48 3000. Je vous souhaite un excellent week-end. Prudence à vous, on ne lâche rien et à lundi avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.